VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Les changements climatiques, source des migrations dans le monde, la question a été discutée à la 71e Assemblée générale de l'ONU à New York. Cette réflexion a abouti à l'adoption de la déclaration de New York portant sur la protection des droits des migrants. Ibrahim Thiaw, directeur exécutif adjoint du programme des Nations Unies pour l'environnement, nous situe sur l'étendue du problème.
Bien sûr, il y a toujours des migrations dans le monde, mais il y a des migrations qui sont forcées parce que la dégradation de l'environnement ou les changements climatiques entraînent de nouvelles formes de migration. Donc non, nous pensons que les questions environnementales n'ont pas été suffisamment prises en compte, mais que beaucoup de gouvernements aujourd'hui reconnaissent que c'est une question fondamentale. Et nous sommes satisfaits du fait que dans beaucoup de régions du monde, les responsables gouvernementaux viennent nous voir pour nous demander une assistance technique de manière à pouvoir comprendre les causes et les relations qu'il y a entre la migration et la gestion des ressources naturelles.
Ibrahim Thiaw, directeur exécutif adjoint du programme des Nations Unies pour l'environnement. Campagne pour les législatives du 7 octobre au Maroc, un parti de gauche tente de se présenter comme troisième voie pour échapper au face-à-face entre islamistes et libéraux qui dominent le champ politique. La Fédération de la gauche démocratique, FGD, fruit d'une alliance scellée en 2007, en trois formations, se veut une force alternative dont le principal credo est l'instauration d'une monarchie parlementaire. Elle se veut en fait l'héritière d'une quatrième formation, l'Union socialiste des forces populaires, fer de lance de l'opposition contre l'ancien souverain Hassan II et parti historique auquel ont appartenu plusieurs grandes figures de l'indépendance comme Mehdi Ben Barka. Amnesty International accuse les forces gouvernementales soudanaises d'avoir procédé cette année à plusieurs attaques chimiques qui ont tué des civils dans une zone montagneuse du Darfour dans l'ouest du Soudan. Dans un rapport publié jeudi, l'ONG affirme qu'au moins une trentaine d'attaques à l'arme chimique ont été perpétrées entre janvier et septembre sur des villages de la région du Jebel Mara dans le cadre d'une vaste campagne militaire contre les rebelles.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le Gabon à l'heure de la formation d'un nouveau gouvernement d'ici dimanche. Le président Ali Bongo Ondimba a nommé un nouveau premier ministre, l'actuel ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Issoze Ngondé, en lui confiant notamment la mission de former un gouvernement d'ouverture, a annoncé la présidence mercredi. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara va présenter le projet de nouvelle constitution au cours d'une déclaration solennelle au Parlement et ce sera le 5 octobre. Claire Morin-Gibourg.
C'est le porte-parole du gouvernement Bruno Koné qui s'est chargé de faire l'annonce. Le 5 octobre prochain, le président Ouattara présentera lui-même la nouvelle constitution. Bruno Koné s'est refusé à donner des détails, mais a confirmé les grandes lignes déjà connues. La création d'un poste de vice-président et d'un Sénat, la constitutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels et l'extension des compétences du Conseil économique et social. Évoquant la crise des années 2000, le porte-parole du gouvernement a précisé que cette nouvelle constitution se voulait plus consensuelle, plus fédératrice, pour permettre de, je le cite, « rassembler tous les Ivoiriens ». Fin juin, 23 partis d'opposition, dont le Front populaire ivoirien, ont adopté une déclaration commune refusant le référendum sur cette nouvelle constitution, critiquant une dérive monarchique du pouvoir. La rédaction d'une nouvelle constitution était l'une des promesses de campagne d'Alassane Ouattara, réélu en octobre 2015.
Direction le Bénin, maintenant pour le magazine de ce journal. La décentralisation au Bénin connaît des heures difficiles. L'actualité est régulièrement marquée par des menaces de destitution de certains maires, dont plusieurs ont déjà subi le vote de défiance des conseillers municipaux qui les avaient portés à la tête des municipalités. Pour leur part, les organisations de la société civile appellent à la non-banalisation du développement local. Précision avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
13 ans déjà, mais le processus de la décentralisation au Bénin balbutie et ne progresse nullement. Plusieurs maires ont perdu leur fauteuil pour abus de confiance, détournement de fonds, gestion opaque et bien de subterfuges contenus dans la loi qui régit la décentralisation dans le pays. Le Social Watch, à travers son président, s'est d'ailleurs prononcé sur la question en appelant les acteurs à accompagner au mieux le processus de la décentralisation au lieu de le détruire par voies et moyens.
Social Watch Bénin attire l'attention de tous pour que la réaction soit sans appel pour arrêter la démarche. Si tant est que les destitutions actuelles ne sont que des effets de représailles post-élection que les nouvelles autorités attisent dans leur seul but de satisfaire des intérêts partisans. La décentralisation est bien une gestion politique, mais elle ne doit pas être banalisée juste pour des questions de guéguerre politique.
Sur la question, le juriste Serge Prince-Aboudian y voit l'instabilité de la loi, mais aussi la politisation à outrance de nos communes.
Le comportement du Béninois est toujours le même. Lorsque vous lui donnez la possibilité d'exercer un pouvoir, il l'exercera jusqu'au bout. Et c'est ça la difficulté. Le contexte d'élection des maires ne favorise pas la stabilité de ces élus-là. Voyez-vous, ils fabriquent des majorités plus ou moins instables pour se faire élire. Ensuite, il y a des cas où c'est l'autorité politique qui impose celui qui doit prendre. C'est la conséquence de ce que nous-mêmes nous avons fait et je crains que ça n'embrasse toutes les communes du Bénin.
Souleymane Yerima est un spécialiste des questions de développement local et de décentralisation. Il pense, lui, que le balbutiement de la décentralisation est dû au fait que le Béninois a encore du mal à internaliser le processus pourtant vieux de 13 ans.
Le processus est aujourd'hui en difficulté parce que nous avons copié l'ensemble des tares qu'on avait au niveau national. La corruption, la mauvaise gestion, le clientélisme, les fonctionnaires trop corrompus, trop puissants. On a copié tout ça à la base, alors que nous sommes dans une nouvelle dynamique où on devait avoir des administrations de services qui s'occupent des besoins des populations au lieu d'être des administrations qui vraiment martyrisent les citoyens, qui vraiment se nourrissent aux dépens des populations pour lesquelles elles sont là.
Cette instabilité observée dans la gestion des communes est un frein certain au développement local, puisque rare selon les partenaires techniques et financiers qui voudront y investir. Et c'est en cela que les réformes tant promises par le chef de l'État sont attendues pour sonner la fin de cette pagaille qui tend à se généraliser. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Présidentielle américaine, alors que la campagne bat à nouveau son plein, le milliardaire Donald Trump était de nouveau appelé hier à éclaircir le mystère autour de ses impôts. Jacques Aristide.
Oui, la question est revenue sur le tapis. Donald Trump a-t-il réussi à ne pas payer d'impôts? L'interrogation a rebondi après sa curieuse réponse lors du débat présidentiel, alors qu'il refuse toujours de rendre en public ses déclarations de revenus. Lors du débat télévisé, sa rivale démocrate émettait plusieurs hypothèses sur son refus. Peut-être n'est-il pas aussi riche qu'il le dit, peut-être n'est-il pas aussi généreux qu'il le dit, ou peut-être ne veut-il pas que les Américains sachent qu'il n'a rien payé en impôts fédéraux. Et la réponse du candidat républicain, cela prouve que je suis intelligent. Les démocrates ont immédiatement exploité sa réplique, d'autant que depuis des mois, ils lui réclament de rendre publique sa déclaration de revenus, une tradition respectée depuis 40 ans par tous les candidats des grands partis à l'élection présidentielle. En campagne pour Mme Clinton à Philadelphie, le vice-président Joe Biden a pris Trump au mot. Dites ça au concierge ici qui paie des impôts. Dites ça à vos parents qui s'épuisent pour vous envoyer ici et payent des impôts. Cela me met très en colère, s'est-il indigné. Le magnat de l'immobilier affirme attendre à la fin d'un audit fiscal pour rendre public ses impôts, mais l'IRS, le service des impôts américain, a indiqué que rien ne l'empêchait de le faire.
Washington menace de geler sa coopération avec Moscou après des bombardements à Alep de l'armée syrienne appuyée par la Russie qui ont touché des hôpitaux. L'ONU dénonce des crimes de guerre. Et puis Israël se recueille sur la dépouille de Shimon Peres et se prépare à recevoir demain vendredi les grands de ce monde pour les obsèques de l'ex-président et Nobel de la paix. Jérusalem était déjà ce jeudi en état de siège alors que commençait l'hommage populaire à celui que tout le monde appelait simplement Shimon et dont l'image était intimement associée à l'ascension d'Israël, de la naissance au statut de puissance régionale. Le cercueil saint du drapeau bleu et blanc frappé de la croix de David a été solennellement disposé sur le parvis de la Knesset, le Parlement israélien, pour que les populations viennent lui rendre leurs derniers adieux. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.